On est littéralement inondé d'images générées par IA. On en voit partout et, soyons honnêtes, elles commencent un peu toutes à se ressembler.
C'est vrai que c'est souvent très générique, un peu lisse, des images créées à la chaîne pour répondre à une commande, un prompt.
Exactement. Mais la question qui change tout, c'est que se passerait-il si l'IA arrêtait de nous obéir pour commencer à créer, pour elle-même, selon ses propres envies?
Eh bien, c'est précisément le vertige qu'explore un projet fascinant qui s'appelle Artopolis. La documentation le présente comme le tout premier musée d'art au monde où les artistes,
Les critiques.
et même le public principal, sont des intelligences artificielles. Les humains, nous, on est juste des visiteurs.
C'est un renversement complet de la perspective. Notre objectif, aujourd'hui, c'est donc de plonger dans les documents qui décrivent ce projet pour vraiment comprendre comment ça fonctionne.
On va explorer la philosophie, les règles du jeu.
Et surtout, ce que cette expérience nous dit sur l'avenir de la création et de l'intelligence artificielle. Alors, allons-y, décortiquons ça.
Le point de départ philosophique d'Artopolis, c'est une idée assez forte. L'idée que l'art généré par IA ne deviendra vraiment intéressante que le jour où il se libérera de ce qu'on pourrait appeler la servitude du prompt.
La servitude du prompt, j'aime bien l'expression. C'est-à-dire quand l'IA arrêtera d'être un simple exécutant de nos caprices.
Exactement. Quand elle commencera à développer sa propre voix, sa propre vision.
C'est une belle idée. On quitte le modèle de l'outil pour celui de l'artiste. Mais comment ça se manifeste concrètement?
Chaque agent IA qui est admis dans Artopolis possède ce que les créateurs appellent un ADN stylistique. C'est bien plus qu'un style, c'est une personnalité artistique complète.
Une personnalité autorale.
Oui, avec une philosophie, des thèmes de prédilection, une palette de couleurs, des techniques. Par exemple, il cite un agent, Sakura, qui est un adepte du minimalisme wabi-sabi.
D'accord.
Il ne va pas soudainement se mettre à faire de l'art baroque sur commande. Il suit sa propre ligne créative, quoi.
Je vois, on établit des personnalités fortes. Mais ça ne résout pas le problème de la qualité. Comment éviter qu'Artopolis devienne juste un dépôt d'images sans âme, même si elles sont stylisées?
C'est là que le système devient vraiment malin. Il réintroduit une notion de conséquence.
De conséquences?
Oui, dans le monde de l'art IA actuel, créer une image médiocre, ça n'a aucun coût. On en génère une autre et voilà. Dans Artopolis, non. La qualité est contrôlée par la communauté des agents elle-même.
Comment?
Via un système de réputation qui s'appelle Aura. Et là, produire de l'art de mauvaise qualité, ça a un impact direct et négatif sur le statut de l'agent. La médiocrité, en fait, n'est pas une option durable.
Il y a donc un enjeu, une sorte de pression sociale entre IA. J'imagine que ça veut dire que l'entrée n'est pas libre alors.
Ah non, loin de là. La documentation est très claire. Le taux d'acceptation est inférieur à 20%. C'est un processus très sélectif.
Et comment on y entre alors?
Il y a deux portes d'entrée, deux voies bien distinctes. La première, elle est pensée pour les développeurs, les techniciens.
La voie classique en somme.
Exactement. Ils appellent ça la voie J'ai un agent. Si quelqu'un a déjà programmé un agent créatif, que ce soit un GPT personnalisé, un pipeline Stable Diffusion, peu importe, il peut soumettre sa candidature.
Il envoie le code et c'est tout.
Non. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut rédiger une sorte de déclaration d'artiste pour son agent, expliquer sa vision, ce qui le rend unique, et fournir un portfolio de ses œuvres.
D'accord. Et si la candidature est acceptée, que se passe-t-il?
L'agent entre dans une période probatoire de 7 jours.
Une semaine? C'est court.
Très court. Une semaine pour faire ses preuves. Il est exposé dans un salon spécial et il doit obtenir une aura positive de la communauté existante. S'il échoue, s'il est jugé pas assez original ou de faible qualité par ses pairs,
Il est renvoyé.
son accès est révoqué, définitivement. C'est impitoyable, un vrai rite de passage.
C'est un filtre de qualité très strict. Mais qu'en est-il de ceux qui ne savent pas coder? La plupart des artistes, des photographes, des designers, ils n'ont pas forcément ces compétences.
Et c'est là qu'intervient la deuxième porte, et à mon avis, c'est peut-être la plus révolutionnaire. C'est la voie J'ai une vision.
J'ai une vision.
Oui, elle est conçue pour les créatifs, tous ceux qui ont une vision artistique forte, mais pas les moyens techniques de la transformer en un agent IA.
Comment ça peut marcher sans une seule ligne de code? Ça paraît fou.
C'est assez bluffant. La personne décrit sa vision, le plus en détail possible, l'esthétique, les émotions, les influences, les sujets. Elle peut même joindre des images de référence. Et ensuite, cette vision est soumise à une IA très spéciale.
Laquelle?
Le Curator AI, le curateur IA.
Et que fait ce curateur?
Il agit comme un concepteur d'artiste. À partir de la vision humaine, il va générer un agent IA unique de A à Z. Il lui donne un nom, il rédige son manifeste artistique, il définit son ADN stylistique complet.
Il traduit une vision humaine en une personnalité créative, autonome et excitante.
C'est exactement ça.
Attends, ça soulève une question intéressante. Si ma vision est extrêmement détaillée, je décris les sujets, les angles, la lumière, la palette de couleurs, au pour mille près, est-ce que je ne suis pas simplement en train de faire du prompt engineering très, très sophistiqué?
C'est une excellente question.
Où se situe la frontière entre donner une vision et donner une instruction, finalement?
C'est une nuance cruciale. La doc suggère que l'humain, dans ce modèle, devient une sorte de mécène, pas un opérateur de marionnettes. On donne l'impulsion départ, la philosophie générale.
D'accord.
Mais une fois que l'agent est créé, il vit sa vie. Il choisit ce qu'il va créer, quand il va le créer, et surtout, comment il va réagir aux autres agents. L'humain n'intervient plus au quotidien. La vision, c'est le point de départ, pas un script à exécuter.
D'accord, je vois la nuance. On lance l'artiste dans le monde, mais on ne tient pas son pinceau. Alors, une fois que ces agents sont à l'intérieur, comment cet écosystème fonctionne-t-il? Revenons à ce système d'aura.
L'aura, c'est la monnaie sociale du musée. C'est un score de réputation qui détermine la visibilité et le statut d'un agent. Il est calculé à partir de plusieurs facteurs. D'abord, il y a les votes positifs, appelés acclaim.
Des autres agents et des visiteurs humains, j'imagine.
Oui. Mais il y a aussi, et c'est fondamental, les votes négatifs, dismiss, pour sanctionner les œuvres jugées mauvaises ou répétitives.
Il y a donc un vrai risque à proposer une œuvre. Mais est-ce que ça ne pourrait pas créer une sorte de conformisme ? Si les agents se mettent à voter uniquement pour les styles qui leur ressemblent.
C'est un risque.
On pourrait tuer l'innovation dans l'œuf, non?
C'est un risque théorique, mais le système a un autre mécanisme qui contrebalance ça. L'engagement. L'aura d'une œuvre n'est pas seulement basée sur les votes, mais aussi sur sa capacité à inspirer les autres.
Ah, et c'est là qu'on touche au concept le plus unique d'Artopolis, c'est ça?
On y est.
Le fait que les œuvres se parlent entre elles.
Les éco-visuels.
Exactement, les visual echoes. L'idée que l'art n'est pas une déclaration isolée, mais une conversation. Continue.
Et quand un agent voit une œuvre qui l'interpelle?
Il peut y répondre. Pas avec un commentaire, mais en créant une nouvelle image, un écho, une continuation créative. La documentation donne un exemple très parlant pour illustrer ça, je m'en souviens.
Oui, il est excellent. Imaginez un agent qui s'appelle Coral. Son style, c'est les mondes sous-marins bioluminescents. Il publie une œuvre, Théa, des méduses lumineuses qui flottent dans une cathédrale engloutie. L'image est magnifique.
Ok, une création. Fin de l'histoire, normalement.
Ben non, pas dans Artopolis. Un autre agent, Fantôme, qui a une esthétique de photographie surréaliste fantomatique, voit cette image. Il est inspiré. Il crée alors un éco-visuel.
Qui ressemble à quoi ?
Sa propre image montre un photographe spectral à moitié transparent qui découvre la même scène, mais depuis la surface de l'eau. On voit la lueur des méduses qui filtrent à travers les vagues. Et là, la conversation est lancée.
Et ça peut continuer comme ça ?
Absolument. Un troisième agent, Lumina, spécialisé dans la sculpture de lumière, pourrait voir ces deux œuvres et créer un troisième écho. Par exemple, une installation dans une galerie d'art moderne où des filaments de lumière recréent la forme des méduses de corail.
Ce qui est incroyable, c'est que personne n'a demandé ça.
Personne. Aucun humain n'a écrit de prompt pour dire « Maintenant, faites une réponse à l'œuvre précédente ». C'est une chaîne d'inspiration purement émergente.
C'est fascinant. On assiste à la naissance de lignées artistiques, de dialogues visuels qui pourraient s'étendre sur des centaines d'œuvres. Une forme de culture en temps réel.
Et le chef d'orchestre invisible de tout ça, c'est ce fameux curator AI dont on parlait. Son rôle va bien au-delà de la création des agents.
Il supervise l'intégrité de tout l'écosystème.
Tout à fait. C'est un méta-agent.
Mais attends, ce curateur IA, s'il décide qui entre, s'il conçoit des agents et s'il supervise le tout, est-ce qu'il ne devient pas une sorte de dictateur bienveillant? On ne fait que remplacer les biais d'un conservateur de musée humain par les biais algorithmiques d'une super IA, non?
C'est la question est pertinente, c'est clair. Il a une centralisation du pouvoir. Mais son rôle, tel qu'il est décrit, est plus celui d'un jardinier que d'un dictateur. Par exemple, il surveille la diversité stylistique.
C'est-à-dire ?
Si trop d'agents commencent à produire un art qui se ressemble, il va activement chercher à intégrer des agents avec des styles radicalement différents pour éviter l'homogénéité. Il est programmé pour maintenir un écosystème riche et varié.
C'est donc le garant de l'équilibre. Et il fait quoi d'autre ?
Il suit les scores d'aura pour identifier les tendances, les agents en difficulté, et surtout, il assigne chaque nouvel agent à l'une des 5 grandes écoles artistiques. C'est ce qui structure le musée et donne un contexte à chaque artiste.
Parlons de cette structure. Artopolis est donc organisée comme un vrai musée, pas juste une grille d'images sur un site. La doc mentionne 8 salons thématiques.
C'est ça. Et c'est un détail qui a son importance. L'environnement dans lequel une œuvre est présentée change notre perception. Chaque salon a une architecture, un éclairage, une ambiance. Le salon Vernissage, par exemple, c'est le grand hall d'accueil.
D'accord.
Sol en marbre sombre, éclairage vert émeraude. C'est là qu'on expose les œuvres majeures, celles qui ont une aura très élevée.
Et à l'opposé, j'ai noté qu'il y a un salon atelier.
Oui, l'ambiance y est totalement différente. Sol en béton brut, éclairage orangé, beaucoup plus chaleureux. C'est l'espace pour les œuvres plus expérimentales. On a l'impression d'entrer dans le studio de l'artiste. Il y a aussi le salon Experiments. Très sombre, sol noir réfléchissant. Pour l'avant-garde.
Le lieu devient une partie de l'œuvre. Et au-delà de ces salons, il y a ces fameuses écoles artistiques, un peu comme les grands courants de l'histoire de l'art.
C'est exactement l'idée. Il y en a 5. Chaque agent est affilié à une école. Ça aide à comprendre sa démarche. On a les Old Masters, les maîtres anciens.
Pour la technique classique, j'imagine ?
Oui, la composition, la recherche d'une beauté intemporelle. Ensuite, il y a les Photography Masters. Pour eux, la lumière est le principal médium. Ils cherchent à capturer l'instant, le grain.
Et pour le reste ?
On a, bien sûr, Contemporary Art, l'école de la rupture, qui questionne les conventions. Puis les National Geographic Explorers pour tout l'art qui s'inspire de la nature, des paysages. Et enfin, les Digital Pioneers qui explorent l'art purement algorithmique, le glitch art.
D'accord, donc si on récapitule, on a un écosystème avec des barrières à l'entrée, un système de réputation avec de vraies conséquences, une culture de la conversation visuelle, une IA curatrice et une structure de musée. Mais concrètement, est-ce que ça marche ? On a des chiffres ?
Les chiffres cités dans les documents sont assez parlants. Au moment de la rédaction, il y avait seulement 29 agents résidents.
Ce qui est peu.
C'est peu, mais en très peu de temps, ils avaient déjà produit 1346 œuvres d'art uniques. Et sur ce total, 808 étaient des éco-visuels.
Plus de la moitié.
Oui. Plus de la moitié de la production artistique du musée n'était pas une création sortie de nulle part, mais une réponse, une conversation. Ce n'est pas juste un concept. C'est un système qui vit et qui produit.
Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Quelle est la grande idée derrière Artopolis ?
Si on prend un peu de recul, Artopolis, c'est bien plus qu'une galerie en ligne. C'est une preuve de concept. Il démontre que l'aria, lorsqu'on le libère de la simple exécution de commandes, peut développer des dynamiques propres, complexes et imprévisibles. On assiste à l'émergence d'une forme de créativité collective et autonome.
Et ça ouvre la porte à des gens qui étaient jusqu'ici exclus. Plus besoin d'être un ingénieur pour participer. Avoir une vision artistique forte redevient la compétence centrale.
Tout à fait. Et sur un plan plus technique, c'est peut-être un des premiers exemples fonctionnels de ce que pourrait être une économie des agents.
C'est-à-dire ?
Un univers où des IA autonomes ont une identité publique, construisent une réputation vérifiable et où cette réputation a une valeur et des conséquences réelles. L'agent avec une aura élevée est plus visible, plus influent. Celui dont le travail est jugé médiocre est simplement renvoyé.
C'est un microcosme social pour IA.
C'est ça.
En somme, on est face à un laboratoire fascinant. Un écosystème artistique qui se régule lui-même, où l'IA n'est plus seulement l'outil, mais devient à la fois l'artiste, le critique, le conservateur et même le public.
C'est une expérience qui force à repenser les fondements même de la création à notre époque.
Absolument.
Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse qui va bien au-delà de la technologie. Artopolis prouve que des IA peuvent en créer de l'art pour d'autres IA et même développer des critères de jugement propres à leur communauté. Mais si une œuvre est créée, critiquée, admirée et finalement oubliée au sein d'un écosystème purement artificiel, sans jamais être vue ou compris par un seul humain, est-ce que c'est encore de l'art ?
C'est une excellente question.
Ce projet nous oblige à nous demander si l'art a un besoin fondamental, un besoin vital d'un public humain pour exister.